19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis, bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et oui, jusqu'à 20h, nous allons commenter, analyser et décrypter l'actualité. C'est parti, y compris vous aussi au 01 53 48 3000. Alors, ce qui est au sommaire, ce que je vous propose, je vous embarque sur des sujets d'actualité. On viendra commenter notamment la toute première femme élue au perchoir de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, on viendra parler et je ferai commenter notamment nos débatteurs influenceurs. Alors, premier sujet qui a retenu notre attention les amis, c'est celui de Darmanin qui souhaite que les Républicains rejoignent le président de la République. Mais attention, à quel prix et comment? Est-ce que cela est possible? Justement, alors il y a des bonnes intentions, mais est-ce que c'est envisageable? C'est la question qu'on posera. On viendra sur l'événement du Stade de France. Ça y est, il présente enfin ses excuses clochettes. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui présente ses excuses à tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion, a-t-il dit. Enfin, nous reviendrons aussi sur un autre sujet, le sujet du gouvernement. Le gouvernement qui annonce la hausse de 3,5% sur les salaires des fonctionnaires. Vous savez quoi? Dès le 1er juillet. Est-ce suffisant? On va en parler. Notamment, nous serons avec un syndicat qui est avec nous sur le plateau. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, évidemment, ça va pouvoir combler? On parle d'une situation extrêmement laborieuse de plus en plus quand on pense à l'inflation, au pouvoir d'achat. Eh bien, je vous entendrai, y compris vous, 01 53 48 3000. Voilà, c'est parti, c'est le programme, 19h30, c'est Faïza Ben Mohamed, la journaliste indépendante qui viendra livrer son regard sur un sujet d'actualité, notamment sur celui de Diams et son film. Ça se passe à 19h30, voilà ce qui vous attend. C'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
Pierre-Henri, vous faites le tri là? Qu'est-ce qui se passe? Oui.
Je cherche mes cartes bleues.
Oui, bah regardez, cherchez, vous avez droit à plusieurs clochettes. Bonjour Pierre-Henri, comment ça va?
Eh bien, plutôt bien.
Ravi, le patron de France Fraternité.
Ravi.
Bien dans le micro. Hein.
Ravi d'être à vos côtés, Adil. Mmh. Voilà, pour. Et toujours un grand plaisir d'être sur l'antenne de Beurre FM, voilà.
Voilà.
Les essais de voix sont finis.
Oui.
Bonjour auditrice, voilà, auditeur, tout ça. Va bien?
Tout va bien, super. Face à vous, eh bien, c'est Jimmy Dalidou qui est le représentant de la CGT, mais également aussi auteur. Jimmy Dalidou, comment ça va?
Ça va et
vous? Oui, très bien, on va ouvrir votre micro aussi, pareil. Mais bon, c'est normal, c'est le direct, c'est comme ça. Allez-y, tout va bien?
Ouais, ça va, ça va.
Super. 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on vous donne la parole, on vous entend donc sur les sujets d'actualité. Je voudrais vous entendre, messieurs, sur la toute première femme élue donc au perchoir. Elle est la toute nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet. Et le 01 53 48 3000, c'est historique, dites donc. Vous avez perdu votre carte bleue, vous?
Oui, mais c'est historique, non pas de perdre sa carte bleue, mais d'avoir une femme première ministre.
Qui a une histoire.
Et puis, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est élue. Et dans une période compliquée, parce que ses fonctions vont être difficiles à remplir, avec une majorité relative, qui laisse présager des débats houleux sur des textes divers. Donc bravo à elle. Voilà, et puis on va attendre maintenant la désignation
238 vous savez, 238 voix sur 577.
Oui, alors elle est élue au deuxième tour, il faut le dire aux auditeurs, parce que il y a eu un certain nombre d'abstentions. C'est-à-dire que, par exemple, le Rassemblement National, là, s'est retiré du deuxième tour, il s'est compté au premier, voilà. Et donc, ça abaisse automatiquement niveau de majorité nécessaire pour être élu.
Tiens, tiens, je vais, avant de vous entendre, Jimmy Dalidou, je voudrais juste accueillir David, qui nous appelle du département du 78. Quelle ville, David? Bonsoir, David.
Oui, bonsoir, de Sartrouville, dans les Yvelines.
Oh, le Sartrouville, effectivement, on est très écoutés. Je vous écoute, mon cher David, bienvenue.
Alors moi, c'était pour le pouvoir d'achat, effectivement, français citoyen, on n'en peut plus, quoi. On est à bout. Franchement, on paye tout, les loyers augmentent, le carburant augmente, l'alimentation, franchement, on n'y arrive plus, quoi.
Vous êtes dans la fonction publique ou dans la fonction privée?
Alors moi, j'étais dans la fonction publique, j'ai dû démissionner de mon poste. En fait, j'étais élève le gardien de la paix.
Ouais.
Et j'étais affecté dans une école de police à Lyon, et tellement que, bah, avec le carburant, le péage, aucune aide, j'ai dû démissionner carrément de mon emploi.
Démissionner?
J'ai dû démissionner parce qu'en école de police, vous êtes à 1 400 € par mois. Et quand vous habitez en région parisienne et vous faites les allers-retours les week-ends pour rentrer chez vous, et ça vous coûte 400 € par mois, plus toutes vos dépenses à côté, l'addition est vite faite.
Bon. Terrible. Vous faites quoi maintenant?
Alors maintenant, je suis chef d'équipe pour une société de télésurveillance.
Mmh. Ça se passe bien?
Ça se passe très très bien, je gagne mieux ma vie, donc je suis content, mais bon, il faudrait qu'on arrive à vivre de notre salaire, on n'y arrive plus, quoi. Tout augmente et on a l'impression que les politiciens parlent beaucoup, mais il n'y a pas d'action.
Sans regret d'ailleurs?
Oui, bah, bien sûr, avec des regrets, effectivement, mais je n'avais pas le choix, en fait. J'ai demandé des aides, j'ai demandé à droite, à gauche, et personne n'a voulu m'aider, en fait, personne n'a voulu m'écouter, donc j'ai été obligé de démissionner.
Et vous avez démissionné sans regret. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est suffisant quand on propose 3,5 l'augmentation sur les salaires de la fonction publique?
Alors c'est une avancée, mais c'est insuffisant, mais totalement, c'est complètement insuffisant. Ma femme est également fonctionnaire, elle est actuellement à 1 400 € par mois. C'est insuffisant, les loyers sont très chers en Ile-de-France, l'alimentation qui flambe, le gazole à 2,15 €. Nous, on a deux voitures, donc moi, je fais des kilomètres par le travail. Donc, c'est totalement insuffisant. C'est une bonne avancée.
Non, mais je vous l'accorde, ça fait beaucoup. Et on a un syndicat, ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure. Vous avez raison. Merci, David, pour votre appel.
De rien, bonne soirée, bon courage à vous, merci.
Merci et restez fidèles. Jimmy Dalidou, première femme élue au perchoir. Quelle est d'abord votre première réaction?
Ouais, je dirais que c'est toujours positif qu'une femme soit à ce poste-là, hein. Quel que soit le poste d'ailleurs, que ce soit politiquement, à quel niveau que ce soit, une femme qui prend des responsabilités, c'est toujours positif. Maintenant, comme le disait très justement l'intervenant...
David,
les politiciens actuellement, enfin, pas seulement actuellement, ils ont toujours beaucoup parlé, ils n'ont jamais agi. Donc c'est une femme, elle oublie, il faut pas qu'elle oublie qu'il y a des femmes qui sont issues de la classe ouvrière, des couches populaires en France, qui galèrent, qui a des sujets importants. Hein, je pense notamment à la violence faite aux femmes. Il faut que c'est la violence faite aux femmes et à leurs enfants. Et il faut qu'il y ait des actions concrètes à ce niveau-là. Et les salaires, on va en parler évidemment.
Parce on va en parler justement. Tiens, parlons-en, tiens, maintenant. Si je vais commencer avec ça. Non, mais attendez, on va commencer, tiens, avec ça. Le gouvernement qui annonce une hausse des salaires de 3,5% à partir du 1er juillet. Bon, alors, ça veut dire quoi? Concrètement, là, on parle de la loi sur le dans la fonction publique, bien sûr, mais Emmanuel Macron, le chef de l'État, il invite aussi dans la fonction privée de revaloriser les salaires. Alors, il va y avoir ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. La fonction publique, donc, a annoncé clairement une mesure concrète. Est-ce que vous trouvez que cette revalorisation du 3,5, ce point d'indice, est suffisant ou pas pour les 6 millions à peu près d'agents? Tiens, je m'adresse aux représentants de syndicats et puis je voudrais ouvrir l'antenne parce que je voudrais les entendre aussi, les auditeurs. Jimmy Dalidou.
Non seulement c'est pas suffisant, mais je dirais carrément que c'est du foutage de gueule, en fait.
Ah, ça démarre fort.
3,5%, c'est du foutage de gueule.
Ouais.
Alors, moi, je rappellerai une chose. C'est que...
Je rappellerai une chose, c'est qu'en 1983... À 3,5
en 1983, il y a eu
euros pour un salaire à partir de 1 000 €. C'est pas du foutage de gueule.
Bah, si, c'est du foutage de gueule.
Pour les gens qui reçoivent qui vont recevoir 50 € de plus.
Ça suffit pas.
Mais ça ne suffit jamais. Mais simplement.
Bah, bien sûr que ça ne suffit jamais.
Ça ne suffit jamais.
Quand tu vois que c'est
alors attendez, on va s'écouter parler. Vous le laissez développer. Oui. Pourquoi c'est du foutage de gueule? Et Pierre-Henri vous répond. Pourquoi c'est du foutage de gueule?
Pour plusieurs raisons. Ils nous disent que le coût total de leur démarche là est estimé à 7,5 milliards d'euros. On va dire entre 7 et 8.
Oui, bah, c'est pas rien.
Bah, je vous rappellerai, en même temps, je te rappellerai que les rémunérations annuelles du CAC 40 pour les patrons est d'environ 730 millions d'euros par an. Et je rappellerai aussi que c'est plus de 100 milliards d'euros qui ont été versés sous forme de dividendes ou sous forme de rachat d'actions pour la seule année 2021. Donc c'est clairement pas suffisant. Ensuite, je rappelle une chose, c'est qu'en 1983, les syndicats, ils étaient contre ce qui s'est produit en 83 sous le gouvernement Mitterrand. Je vous rappellerai qu'à l'époque, le salaire était indexé sur les prix. Et encore, c'est encore la gauche plurielle de l'époque qui nous l'a bien mis à l'envers.
Elle va vous répondre. Alors,
ils ont fait sauter ça. Et si tu veux, si vous voulez, à l'époque, quand il y avait une inflation, une augmentation des salaires, des prix, il y avait automatiquement une augmentation de salaire.
Vous répondez quoi, Pierre-Henri? J'ouvrirai l'antenne au 0153483000. On la fousilla et Karim.
Alors, les salaires sur les prix.
Alors, vous répondez au foutage de gueule, Pierre-Henri.
Je vais simplement répondre qu'effectivement, la mesure peut paraître insuffisante. Simplement, c'est un dégel du point d'indice qui n'était pas intervenu depuis 5 ans. Déjà, il faut le souligner. Deuxième élément, on peut regretter malgré tout que cette augmentation ne couvre pas la totalité de l'augmentation due à l'inflation, qui est de 5,5% environ sur l'année 2022. Bon, n'empêche, c'est un premier geste qui est intéressant, et puis on va bien voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, parce que il y a une loi pouvoir d'achat qui, j'espère, alors là pour le coup, va faire l'unité, et que on va retrouver les députés de tous bords qui vont pouvoir s'entendre sur cette notion de pouvoir d'achat.
Il va vous répondre.
À la pompe, par exemple, mais aussi pour juguler le prix de l'énergie, l'augmentation des loyers, etc. Mais je ne dirai jamais que cette augmentation est un foutage de gueule. Parce que, à partir de ce moment-là, ça veut dire que rien ne trouvera grâce jamais à vos yeux.
Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait quelques temps que ce gouvernement, quels que soient les gouvernements,
n'a pas été débriqué.
Grâce aux yeux du peuple français.
Donc au moins, saluez ça, et dites que ce n'est pas suffisant. Mais
non,
ne soyez pas dans une,
opposition. Je vais vous dire une chose, il faut agir à deux niveaux. Concrètement, c'est l'augmentation générale des salaires qu'il faut, que ce soit public et privé. Dans le public, il faut faire péter les grilles de salaire et arrêter le système de primes. Parce que le système de primes, c'est le prix de la carotte.
SMIC à 2000
et il faut que la plupart des primes soient intégrées dans les traitements.
Position de la CGT,
et dans le privé, il faut agir au niveau des TPE, PME, PMI. Il faut augmenter, il faut exonérer les TPE, PME, PMI des charges sociales. Parce qu'ils sont étouffés par les charges sociales et répercuter ces charges sociales et faire payer par les monopoles capitalistes, c'est-à-dire les multinationales qui exportent leurs profits dans les paradis fiscaux. Parce que comme ça, si on allège les charges sociales des TPE, PME, PMI, ça va permettre de créer de l'emploi, de
justement, attendez. Je vous arrête, messieurs. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Henri, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jimmy Dalidou. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Je vous attends. Je vous attends parce que c'est un vrai sujet de société, oui. Faut-il augmenter les salaires? Est-ce que vous trouvez, comme Jimmy Dalidou, que c'est du foutage de gueule d'augmenter les salaires à hauteur de 3,5? Je vous attends au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Et il est 19h20 si vous venez de le retrouver. Pierre-Henri, le patron de France Fraternité avec nous. Jimmy Dalidou, le représentant CGT, mais également auteur, est avec nous. Et puis vous, au 01 53 48 3000, j'ouvre l'antenne. Pas mal de coups de fil, pas mal d'appels, justement, l'Isère, Montpellier, Pantin, Paris. Tiens, on va aller direction l'Isère. On accueille Paul. Bonjour Paul.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Quelle ville de l'Isère?
C'est Fontaine, touche Grenoble. Vous savez, c'est comme à Paris, disons le pont d'Austerlitz, d'un côté la gare d'Austerlitz, de l'autre côté la gare de Lyon, ça se touche.
Allez, super, on vous écoute cher Paul.
Je suis un grand privilégié, en 2021 j'ai bénéficié de 0,4% d'augmentation et je suis obligé tous les mois d'aller en Suisse, elle n'est pas loin. En plus je suis privilégié, j'étais à la SNCF donc je ne paye pas le train. Avec 0,4% d'augmentation plus les retenues, les augmentations qui vont, les moins 6% ne sont pas loin. Je vis dans un HLM pourri, mais je ne suis pas le seul, hein. Je ne parle pas que pour les cheminots dont je fais partie. Nous mettons la main à la poche, nous payons quand même 10% de plus que le régime général, on n'en parle jamais. Donc, nous vivons dans des HLM pourris. Là, en face de moi, j'ai un enseignant qui a des fuites d'eau dans son appartement. Du côté, disons, augmentation, ça n'a pas été terrible non plus de chez eux. Moi, je veux bien qu'on soit des privilégiés. En 2018, 9 juin, ma femme a reçu une fenêtre sur la tête. Bon, il y en a 4 qui sont tombés dans la cité, vous voyez, ce jour-là. Eh bien, voilà, on est quand même des privilégiés d'après certains journaux, d'après certaines radios. Si vous avez vu les déclarations du Dauphiné libéré à ce moment-là, qui nous traitait de privilégiés, paraît-il qu'on part à 55 ans, c'est archi faux. Ils n'ont pas intérêt à partir avant 60 ans. J'ai un collègue qui est conducteur de TGV. Donc, ils devaient toucher soi-disant 600 euros en deux fois. Ils attendent toujours. Depuis 8 ans, ils n'ont pas eu d'augmentation. Voilà, je ne parle pas que pour moi spécialement, je m'estime heureux.
Eh bien, je vais laisser, tiens, nos deux débatteurs influenceurs, très intéressant ce témoignage. Merci mon cher Paul de l'Isère. Vous voulez faire un commentaire ?
Ouais, parce que je suis...
Jimmy Dalidou.
Je reviendrai sur ce que disait le confrère, parce que je suis aussi cheminot. Et effectivement, il y a une confusion qui a été semée dans les esprits des gens, notamment via les médias menteurs. Qui consiste à dire que les enseignants, les cheminots, le service public, etc., et c'était des privilégiés. Non, je crois qu'il y a eu la confusion entre, il ne faut pas confondre privilège et conquête sociale. Et en fait, ces conquêtes, ce sont des conquêtes sociales qui ont été générées par la lutte des classes. Nos anciens, ils se sont battus pour ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit, nous, la CGT cheminot? On avait dit à l'époque, si vous laissez passer, lors de la bataille du rail, vous vous souvenez, on vous avait dit, si vous laissez passer ça, si vous laissez passer la loi travail et le fait de défoncer le service public et le chemin de fer service public, vous ouvrez la porte au capital pour bouffer le travail d'une manière
générale.
C'est ça qui s'est produit.
Oui, alors les cheminots sont peut-être pas les plus mal lotis dans l'affaire. Le départ à la retraite, rappelez-moi, il se passe à quel âge pour les cheminots?
Bah, nous, c'est pareil, hein, c'est dans les avec la réforme qu'il y a eu, c'est 60 ans, pas moins.
Mais qui part à 60 ans? Qui part à 60 ans?
Pour tout le monde, pareil.
Oui.
Et je rappellerai aussi que les agents du service public, via la mission du service public, sont soumis aux
60 ans.
Ça ne veut pas dire que le public
est
forcément moins loti que le privé.
Pardon.
Ça veut dire que tous les travailleurs, qu'ils soient publics ou privés, subissent des conditions de travail qui sont...
Je pose une question très concrète. D'abord, 60 ans, c'est pas 62 ans ou 63 ans pour la génération qui est née en 1973. Deuxième élément, la retraite à partir du départ à 60 ans, comme vous êtes en train de l'indiquer, elle se calcule sur quelle période. Je rappelle que pour les gens du privé, c'est les 25 meilleures années. Pour les cheminots...
Je te rappellerai que depuis les 4 paquets ferroviaires...
Répondez donc à ma question.
Exactement de la même manière.
Vous savez quoi? Justement, non mais attendez, on continue.
C'est ça qu'on appelle le dumping social. Le
Jimmy Dalidou, Pierre-Henri, Jimmy Dalidou, on continue d'accueillir nos auditeurs. Non mais je voudrais les entendre, vraiment, c'est très important. Sur cette histoire de hausse de 3,5 des salaires. Parce que ça va devenir compliqué, vous allez voir. Robert de Montpellier, bonjour Robert.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute mon cher Robert.
Eh bien, écoutez, j'écoute la radio et je me dis quand même, il y a un monsieur tout à l'heure qui disait que c'est du foutage de gueule.
Jimmy Dalidou.
Je soutiens avec ce monsieur que c'est du foutage de gueule. Parce que quand j'entends ces messieurs qui répondent aux questions, 3% d'augmentation sur, je sais pas, 1200 euros, 1300 euros, ça fait... C'est 1 euro, 2 euros par jour maximum. Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais poser une question à ce monsieur qui répond avec beaucoup d'appoint.
Vous répondez, Pierre-Henri.
Tiens, on va faire un truc. Avec 1,16€ de plus par jour, dites-moi ce que vous faites.
Allez, alors, Pierre-Henri, attendez, il va vous répondre. Pierre-Henri, il est là.
Je comprends très bien la difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre de Français, comme chacun d'entre nous. Moi,
on parle des pauvres, effectivement.
Je passe.
Gens qui,
bon, toute la fonction publique n'est pas pauvre. Il y a une augmentation de 3,5 qui n'est pas intervenue depuis 5 ans.
Les Français sont pauvres du service public.
Ça fait 7,5 milliards de dépenses. À un moment donné, c'est bien de dire c'est pas assez, c'est du foutage de gueule.
C'est la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Depuis 37 ans.
Il y a une question, qui se pose, c'est qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui paye à la fin?
Bah 7,5 milliards répartis entre l'État et les collectivités.
Bah voilà, mais l'État et les collectivités, le budget qui les amène.
Robert de Montpellier, vous dites quoi?
Française.
Vous dites quoi, Robert?
Oui, nous sommes français, oui.
Je dis quoi concernant quoi?
Qu'est-ce que vous disiez à l'instant, Robert?
Je dis simplement que moi, je ne fais pas partie des gens que j'entends à la radio. Je fais partie, je crois, des
1%. Vous entendez, là, à la radio, hein?
Je suis... Voilà, mais franchement, moi, je viens d'un milieu où les fins de mois étaient très difficiles. Alors, je ne peux pas critiquer la France. L'ascenseur social a bien marché pour moi, plus que bien, même. Mais...
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre-Henri?
Qu'est-ce que vous faites, Robert?
Je suis chef d'entreprise, monsieur. Je suis chef d'entreprise, je fais, oui, voilà.
Eh bien, ça marche pour vous.
Voilà.
Enfin, quand on est chef d'entreprise, ça marche pas forcément.
Mais ça marche pour vous.
Ah, et Robert, il a raison, écoutez, il est chef
d'entreprise. Ça marche très bien, oui.
Ça marche très bien, voilà.
Beaucoup de charges. Mais
la France, c'est ce pays où chacun se croit malheureux. C'est extraordinaire. Extraordinaire, ce pays. Oui, vous faites partie de ces gens qui disent en permanence qu'il est malheureux, mais quand
Pierre-Henri
est
dans la négation dans la négation de la domination d'une classe sur une autre. Lui, pour lui, c'est le monde des bisounours, pareil.
Mais bien sûr.
Il est dans la négation du capital.
Robert,
je suis exploité du travail. Pour la répartition.
Écoutons-nous, s'il vous plaît, Robert.
La gueule des gens, vraiment. Et j'ai l'impression que vous vous foutez de la gueule des gens.
Exactement. Voilà. T'as raison, Robert.
Vous
c'est indigne. C'est parfaitement indigne de votre part, monsieur. Les gens qui vous appellent, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que.
Bon. Eh bien, écoutez, vous l'avez dit, vous êtes d'accord avec Jimmy Dalidou. Merci, mon cher Robert de Montpellier, d'être intervenu. C'est aussi ça. Bon, voilà. Ben, écoutez, voilà. 01 53 48 3000. Nous vous attendons. Venez justement échanger avec nous sur cette histoire de hausse salariale de 3,5. Est-ce que vous trouvez que c'est du foutage de gueule? Comme vient de le dire Jimmy Dalidou. Je vais juste accueillir Karim de Pantin qui nous attend depuis tout à l'heure. Karim. Bonsoir, Karim.
Bonsoir, Adil. Bonsoir à vos invités.
Bonsoir, Karim.
Alors, moi, je vais dire, je connais bien la fonction publique parce que j'y ai travaillé pendant 25 ans.
Oui.
Moi, je vais vous dire un truc. Je comprends pas que dans ce pays, on ait honte de prendre certaines mesures, parce qu'on nous dit le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, ça concerne qui? Ça concerne ceux qui ont des problèmes pour finir le mois, ça concerne pas tout le monde. Donc, pourquoi cette augmentation de 3,5%, qui est 50% inférieure à l'inflation, qui, elle, est de 7%, pourquoi on n'augmente pas plutôt de 7% le bas de l'échelle, et qu'on n'augmente pas le haut de l'échelle? Parce que quelqu'un qui touche 7, 8 000 euros, ou 5, 6, 7 000 euros, qu'est-ce qu'il en a à foutre de 3% d'augmentation? Ça n'a rien lui changé dans sa vie.
Ah ben ça c'est sûr.
Alors il vaut mieux que ces 3% de ce riche-là, on la donne à un pauvre. Et moi je vais vous dire dans la fonction publique, hein, ceux qui sont en haut de l'échelle, on appelle ça des catégories A, ils n'ont pas besoin d'augmentation parce que tous les 3 ans, ils sont promus. Donc leur salaire change, ils sont promus, ils sont mutés, ils sont mis à disposition, ils sont détachés, ils sont investis, comme on dit, ils sont chargés de mission. Mais les catégories C, moi j'ai connu des gens dans l'administration qui étaient catégories C pendant 30 ans et qui étaient au même salaire pendant 30 ans. Alors on n'a pas besoin de les augmenter. Moi j'avais des chefs qui gagnaient 8 500 euros, j'aurais dit le gouvernement, ils vont vous augmenter de 3%, ils m'auraient dit, mais Karim, on n'est pas le 1er avril. Oui. Alors, il faut s'occuper. Quand est-ce que dans ce pays, on va s'occuper que des pauvres? Qu'on arrête de s'occuper de tout le monde? Tout le monde n'a pas besoin d'aide, enfin. Tout le monde ne va pas au Resto du Cœur, par exemple. Et moi, je comprends pas. C'est quelque chose qui me dit. On a honte en France de s'occuper que des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. On me dit, ouais, mais c'est une mesure discriminatoire si tu n'augmentes pas tout le monde. Mais je suis désolé, c'est faux. Regardez, pour pouvoir bénéficier de l'APL, il faut que son salaire soit. Il faut que son loyer soit équivalent à 50% de son salaire, sinon vous n'avez pas droit. Et personne ne trouve ça discriminant. Et puis enfin, je voudrais finir sur une dernière chose. Oui. Alors tous ceux qui se réunissent, là, à droite, à gauche, les G20, les G8, les je sais pas trop quoi, qui prennent des décisions contre la Russie et tout ça, et qui nous foutent, nous, dans la merde, qui n'avons rien demandé. mais qu'ils assument, eux, qu'ils baissent leur salaire. Le gars Total, il lui demande de faire les économies, il n'a qu'à diviser son salaire par deux, lui, déjà. Il n'a qu'à arrêter de pourrir les gens de tous ses actionnaires par des dividendes insultants. Et nous, on n'a pas demandé qu'il fallait plus acheter de gaz russe, on n'a pas demandé qu'il fallait plus acheter de pétrole russe. Si. On nous a pas demandé, on était solidaires avec l'Ukraine.
Écoutez, c'est dit, et vous êtes nombreux à le penser. Merci, mon cher Karim. Merci pour votre fidélité, Karim, et d'être intervenu beaucoup. Hein. Karim, Paul de l'Isère, Robert de Montpellier, tous sont d'accord, plus ou moins avec Jamie Dalidou. Effectivement, il faut s'occuper de la France d'en bas. 19h31, on va, mais attendez.
Mais je suis pour s'occuper de la France d'en bas.
Mais vous savez que la France d'en bas, vous la regardez de haut.
Allez, tout de suite, 19h30, pile, le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
On se retrouve tout de suite après, messieurs. Je voudrais accueillir, comme chaque mardi, eh bien, c'est le billet d'humeur de Faïza Ben Mohamed, la journaliste indépendante, qui a décidé de consacrer son billet, son Quoi de Neuf, autour de l'aventure de la rappeuse, l'ex-rappeuse Diams. Bonjour, ma chère Faïza.
Bonjour, Adil.
Comment ça va?
Ça va super.
Eh bien, on vous écoute. Comment va Diams, comment va-t-elle?
Alors, Adil, j'ai choisi de parler donc de Diams parce que, évidemment, personne n'a pu la rater ces dernières semaines. Et pour cause, le film Salem, qui raconte son chemin, le chemin parcouru donc par Mélanie, dite Diams, a été présenté en mai dernier au Festival de Cannes. Mais surtout, ce film, bah, il sort dans les salles pour des projections exclusives ce 1er juillet et le 2 juillet. Et puis ensuite, il sera plus du tout visionnable, si ce n'est sur la plateforme Brut.
Aïe.
Alors, Diams, je vais pas revenir sur son ascension fulgurante, sa carrière incroyable, ses tubes et tout ce qui a fait d'elle une véritable icône des jeunes dans les années 2000. Mais je voulais surtout qu'on parle de la femme, Mélanie, dont l'esprit a longtemps été torturé et qui a sauté de dépression en dépression et qui a su mettre un point d'arrêt à cette spirale infernale. Et dans un pays qui est depuis longtemps fracturé par les questions identitaires, faut bien comprendre à quel point c'est compliqué, difficile de faire de tels choix, et a fortiori pour des considérations qui sont religieuses. Alors Diams, elle est revenue sur le devant de la scène avec une nouvelle histoire à raconter, plus inspirante que jamais, à mon sens, plus en paix que jamais et plus rayonnante que jamais. Mais ça n'a pas suffi aux haineux, aux laïcards, aux islamophobes qui, sans doute, la préféraient en souffrance, pourvu qu'elle ne porte pas de voile et n'affirme surtout jamais avoir trouvé la paix dans l'islam. À coup de tweets ou d'interventions médiatiques, ils sont donc venus la dénigrer, faire d'elle le symbole d'une certaine aliénation ou la discréditer pour ses choix religieux qui, rappelons-le, représentent une liberté consacrée par notre Constitution. Alors à ceux qui l'ont écoutée, qui l'ont appréciée ou qui veulent simplement en savoir davantage, c'est que les jeunes générations ne la connaissent pas forcément pour son parcours musical. Eh bien, je vous invite tous à découvrir le parcours exceptionnel de cette femme qui marque par sa personnalité et son verbe ce week-end dans les salles partout en France.
Vous avez bien raison, Faïza Ben Mohamed, de nous le rappeler. C'est vrai, il faut aller voir ce film. Il faut même soutenir ce film. C'est vrai que j'ai entendu dire, Diams, dire que la question du sujet, le voile, ne pose problème qu'en France. Partout, elle a fait le tour du monde. Il n'y a qu'en France où elle ressent, évidemment, cette hostilité, hein, Faïza.
Oui, alors.
C'est ce qu'elle dit.
Oui,
c'est ce qu'elle dit.
Elle a le droit de le dire. Et si elle.
Pierre-Henri.
Et si elle a soigné sa dépression. En trouvant la paix dans la religion, tant mieux pour elle. À partir de là, faut-il en faire un modèle? Je n'en suis pas certain. Quant à l'idée de dire qu'il n'y a qu'en France que le voile pose problème, je voudrais simplement vous renvoyer...
Je dis ce qu'elle dit.
Oui, ce qu'elle dit. Mais évidemment, le voile dans la rue, etc., c'est une liberté fondamentale. Les gens s'habillent comme ils veulent et il n'y a pas à intervenir là-dessus. Simplement, je veux quand même rappeler que dans un certain nombre de pays, le port du voile est obligatoire, même un peu plus que cela, et que des jeunes femmes vont en prison aujourd'hui pour le retirer. Et donc, on voit bien la nature du débat qu'il peut y avoir. Mais moi, j'ai pas de souci avec Diams. Diams a fait une dépression, elle a trouvé son chemin et la paix dans la religion. Eh ben, tant mieux pour Diams. À partir de là, je pense que c'est un parcours personnel qui n'est pas forcément inspirant et collectif.
Oui, bon, oui, faut aller voir le film, je pense, si ce n'est que par curiosité. Faïza Ben Mohamed.
Mais pourquoi pas?
Faïza Ben Mohamed, merci. pour ce billet d'humeur.
Merci à vous.
Et puis surtout, à mardi prochain, sans faute.
À mardi prochain.
Absolument, prenez soin de vous, ma chère Faïza. Nous allons marquer la seconde pause pub. Et on se retrouve au 0153 48 3000, notamment sur un autre sujet, le Stade de France. Stade de France, Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais il s'excuse. Ah, il s'est excusé, non. Tiens, si, donc, il s'est excusé. Bon, et ben, on va revenir, on va en parler. Après le fiasco du Stade de France.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est également avec Jimmy Dalidou, représentant syndical CGT, mais également auteur. Mais c'est aussi avec Pierre-Henri qui est le président de France Fraternité. 0153 48 3000, nous allons parler de Darmanin qui s'excuse. C'est lui vraiment qui s'est excusé? Non. Clochette. Bien volontiers après le fiasco du Stade de France, notamment, il parle d'un fiasco, on parle aussi de, voilà, de toute cette mauvaise gestion. Tiens, je vais juste accueillir avant de vous écouter, Lazare qui nous appelle de Paris. Bonsoir Lazare.
Oui, bonsoir.
Bienvenue mon cher Lazare, je vous écoute.
Merci, je vais juste refaire un petit retour sur votre intervenant là, juste avant la pub, concernant Diams.
Oui.
En fait, il faudrait
qu'en France, il se fait taper aujourd'hui. Hein.
Oui. Il faudrait qu'en France, on comprenne qu'on a, il faudrait qu'on arrête de faire le parallèle entre les pays où on oblige et la vie en France. Diams a décidé. Il y a des femmes en France, il y a beaucoup, des milliers de femmes qui décident par elles-mêmes de porter le voile. Arrêtez de faire le parallèle avec des pays comme l'Afghanistan.
Quel sujet là-dessus ?
Nous ne sommes pas l'Afghanistan.
Mais je n'ai aucun sujet là-dessus. Je suis
mais vous
la liberté
avec le pays où on oblige.
Je vous le rappelle simplement. Mais moi, je suis pour la liberté absolue de conscience.
Oui, mais c'est pas
le droit de croire, de ne pas croire, de s'habiller comme on veut. Je n'ai aucun problème avec ça. Je vous rappelle simplement.
Écoutez, on passe à la télé.
Oui.
Généralement, presque la majorité. On passe à leur temps à dire la liberté des femmes, mais on veut les obliger à s'habiller comme eux conçoivent les femmes.
Non, enfin, pas moi en tout cas.
Ouais. Aujourd'hui, Pierre-Henri, il en prend pour son grade.
Je suis désolé, ça m'a fait
voilà. Pourquoi vous dites désolé? Non,
soyez pas désolé. Ah non, en plus, on est d'accord.
Voilà, très bien.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. 0153 48 3000, il y a d'autres auditeurs qui veulent vous interpeller.
Ils ont raison.
Oui, ils ont raison, c'est vrai.
Ils ont raison, mais je voudrais venir là sur...
Darmanin,
oui.
Oui. Allons-y, Amadou de Grenoble.
Amadou.
Allez, Amadou de Grenoble, et ensuite je vous donne Darmanin concernant ses excuses.
Bonjour Amadou.
Amadou, bonsoir.
Bonsoir à vous, mes frères invités. Moi, j'interviens sur minorité, la France d'en haut, la France d'en bas. Dans l'égalité républicaine, la politique, ce n'est pas la minorité religieuse. C'est le droit et le devoir. Tout le monde cotise et les riches, ils font payer des impôts. C'est vrai qu'il y en a des moyennes qui ne gagnent pas plus. Mais le principe républicain ne permet pas la minorité. Citoyens, tous les citoyens sont égaux.
C'est ce qu'on dit de Jimmy, ça.
Ah, il a raison.
Merci, Amadou. Ah, ils sont d'accord avec Jimmy. Allez,
il a raison. Quand on dit que 1% de la population mondiale est plus riche que les 99% qui restent, c'est peut-être pas pour rien non plus.
Allez, le ministre de l'Intérieur est revenu au micro de RTLN chez nos confrères sur les graves incidents survenus à Saint-Denis. Justement, il s'excuse, il parle d'un fiasco, mais également aussi, il va beaucoup plus loin. Et difficilement, mauvaise gestion. Tiens, Pierre-Henri.
Eh bien, je crois que Gérald Darmanin a été bien inspiré d'écouter une émission qui a un grand succès, qui s'appelle C'est politique. Et lors d'une dernière émission, l'académicien Sureau posait la question suivante. À quoi reconnaît-on un pays civilisé? Eh bien, c'est quand il est capable de dire, sur un événement, « j'ai merdé ». Voilà. Et les propos de François Sureau étaient quand même.
Ouais, mais il n'est pas complet dans ce que tu t'es pas complet dans ce que tu dis, Pierre-Henri.
Était quand même très très.
Oui, la deuxième partie de ce qu'il a dit de Darmanin aussi.
Et
dans la même déclaration.
Et Gérard Darmanin a donc pour une fois écouté la voix d'un sage, d'un académicien. Il dit j'ai merdé. J'ai merdé
sur la mauvaise gestion.
J'ai merdé parce que
Donc mea culpa.
Bah oui, oui, mais alors non, le vrai sujet,
tu peux pas dire ça,
le vrai sujet, c'est comment et qu'est-ce qu'on fait pour éviter le traitement brutal qui a été réservé aux supporters.
Oui, et, ça c'est vrai.
Et la doctrine.
Qu'est-ce qu'on fait?
Et qu'est-ce qu'on fait pour changer la doctrine de l'emploi?
Ça c'est vrai.
Non, mais
attendez. Alors attendez, c'est je voudrais à côté de tout être. Giovanni a été justement recherché le court extrait. On va l'écouter justement pour se remémorer, puisque Jimmy Dalidou, vous dites, replongeons dans le discours. Écoutons.
Avant d'abord, est-ce que le Stade de France aurait été mieux géré? La réponse est oui. Bon, est-ce que j'en ai une part de responsabilité? La réponse est oui. Je l'ai dit d'ailleurs
devant la commission. Est-ce que vous prononcez le mot excuse ce matin ?
Bien sûr, je m'excuse bien volontiers contre tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion. Je constate, et quelque part je le remarque et je veux le redire ici, que depuis il y a eu 3 grands matchs au Stade de France, puisque j'ai pris des dispositions qui ont changé profondément le fonctionnement de la préfecture de police autour du Stade de France, il y a eu évidemment aucune difficulté.
Ça veut dire que c'est la préfecture de police qui a complètement dysfonctionné?
Moi, je suis le chef d'administration, je ne fais jamais de punition ad hominem, mais peut-être que dans le secret de mon bureau, il existe des changements. Voilà.
Voilà, c'était tout au micro de nos confrères de RTL. Jimmy,
la première chose, c'est que l'événement lui-même a démontré qu'en fait, ce gouvernement est bien plus... Il est bien plus doué, il est très doué pour massacrer les travailleurs qui revendiquent pacifiquement que d'organiser un match de foot. Ça, c'est déjà, c'est la première chose. Ensuite, il vous a dit quoi? Il s'est excusé, monsieur le technocrate, issu de la bourgeoisie nationale, il s'est excusé. Mais t'as oublié de dire, c'est ça que t'as oublié de dire, c'est qu'il a dit, que les supporters étaient des délinquants.
Oui.
Il a dit qu'il fallait.
Parfois, oui,
non, c'est pas des délinquants, c'est des supporters qui ont été nassés, matraqués et martyrisés par ce qu'on appelle des Playmobil de la République, excuse-moi, parce que qui savent rien faire d'autre que tirer à coups de LBD et de matraquer des mecs à partir du moment où ils savent plus quoi faire.
Et je rappellerai aussi qu'il y a aussi,
il en parle un petit peu dans la déclaration, il y a un problème, l'allemand. Il y a un problème, préféré l'allemand. Le préfet allemand, je vous rappellerai que le problème allemand,
c'est pas officiel. Hein.
Il avait déjà problème allemand, il était déjà mis en exergue lors des gilets jaunes, et c'est pas la première fois que ce gars-là se présente comme la matraque officielle du gouvernement. Donc ce gars-là, il faudrait peut-être. On revient même pas sur ses déclarations pendant le confinement, dans lesquelles il a dit que les Français étaient des débiles parce qu'ils sortaient dans la rue. Vous voyez,
donc il y a un véritable problème de l'allemand. C'est pas simplement
c'est
le problème de l'allemand.
Il est incompétent. Et
c'est pas le problème simplement de l'allemand, c'est le problème de la doctrine d'emploi.
Qui est une
des
doctrine de la bourgeoisie monopoliste et qui envoie la matraque et l'LBD lorsque la classe ouvrière et les couches populaires sont en mouvement.
Ça va, vous avez
c'est
fait
ça, l'école la doctrine
de la Ligue communiste, du NPA.
Parce que ce pays, c'est une dictature du capital et c'est comme ça que ça fonctionne.
Là, tout fait. C'est bon.
Les 300 millions de personnes qui l'ont vu.
Ça vous agace. Qu'est-ce qui se passe?
300 millions de personnes qui l'ont vu.
Et les caricaturales? Oui. Mais non, il donne son point de vue.
Bah oui.
Mais c'est la réalité de la lutte des classes, Pierre-Henri. Mais qu'est-ce que tu veux, Pierre-Henri? C'est la lutte des classes. C'est comme ça. 39-45. Hein, les résistants, c'était quoi? Ils étaient tous au PCF. C'est la réalité de la lutte des classes.
Conseil national de la résistance.
Soit tu la nies, soit tu l'acceptes.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Soit on transforme. Soit on fait évoluer les choses. Et en l'occurrence, je répète que je suis pour une modification.
Mais qu'est-ce qu'on fait de ce chaos qui s'est passé, qui s'est déroulé au Stade de France?
Il y a eu une enquête.
Ça suffit les excuses? Un mois après la finale?
Vous voulez faire quoi? Ce qui est surtout important, c'est que les prochains événements que l'on organise, notamment à Paris, mais pas seulement dans toute la France, on ait une gestion différente des foules qui viennent assister à des manifestations sportives. Qu'on ait une gestion différente des forces de police lorsqu'on va manifester et que aujourd'hui, on risque très fort de se prendre un coup ou de respirer les gaz lacrymogènes.
J'ajouterais juste et faire en sorte que les jeunes des quartiers populaires puissent avoir accès aux matchs de foot qui sont trop chers, dont les billets d'entrée sont beaucoup trop chers.
Mais je suis d'accord et on ira ensemble voir un match de l'OM.
Moi, je veux bien. Mais d'accord. Moi, je soutiens
le PSG. Allez, l'OM.
Allez, le PSG. Pardon. Pierre-Henri, merci infiniment, le patron de France Fraternité. Merci également à Jimmy Dalidou, le représentant de la CGT, mais également auteur. Bilal Lendemann, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Qu'est-ce que vous nous annoncez comme menu ce soir?
Ce soir, on va parler un peu de tout et de rien. On va parler du mercato avec les entraîneurs.
Lewandowski va à l'OM.
Aussi de Lewandowski. Non mais c'est vraiment ça, Lewandowski qui force un peu son départ. On va parler aussi de Benoît Paire. qui déteste son sport, qui est le tennis, on tient à le rappeler.
Je vois l'invité, ouais. Farid, là, qui a réalisé le film, là,
ouais.
Sur.
Il est consultant chez nous.
Mais je sais bien.
Ah ben voilà.
Mais je voudrais. Non, mais appelez-le, je voudrais qu'on le félicite.
Ah ben justement, Farid, allez, on va.
Venez, Farid, vite, faut courir,
Il a réalisé un
film
documentaire sur Raymond Coppa. Eh oui, Raymond Coppa, un grand
Farid,
monsieur.
Farid, venez en direct,
Coppa,
je voudrais vous féliciter.
À jamais le pionnier.
Sur l'excellent documentaire que vous avez fait consacré à Raymond Coppa. Bravo.
Merci Adil.
Franchement, merci bravo. Beaucoup. Et pour ça, vous savez quoi, si Bilal me le permet, je voudrais vous inviter pour en parler. Parce que c'est un beau sujet sociétal.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir Adil. C'est...
Respect.
Merci.
Alors là, merci. Le film, allez, faut aller le voir. Il nous a fait un film.
Avec grand
sur Raymond Coppa.
Et alors,
même les réalisateurs peuvent aller s'asseoir. Ah, je vous le dis.
Pourquoi Coppa ? Eh ben, je pense qu'il faudra écouter l'émission quand je passerai dans
cette émission. Voilà, quand tu passeras. En tout cas, bravo, Farid. Franchement, bravo. Respect total.
Merci beaucoup, Adil.
Allez, Bilal Nenman, c'est dans une poignée de minutes, de 20h à 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Merci. À la réalisation, c'était Giovanni. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.